Bienvenue dans le podcast Formation Innovation, le podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'experts de la formation. Chaque semaine, je m'efforce d'inviter une personne remarquable avec qui j'échange sur ses méthodes, ses outils et sa vision de la formation. L'objectif de ces conversations est de montrer que l'on peut former autrement et, avec un peu de chance, vous inspirer à appliquer leurs conseils dans vos formations. Si vous appréciez cet épisode, n'oubliez pas de donner 5 étoiles sur Apple Podcast. Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com. Bonjour Clément, Olivier, merci d'être là avec moi. Comment ça va ?
Bonjour Elliot.
Bonjour.
Ah mais Clément, t'es là aussi, mais regarde un petit peu, on est en dehors de notre jungle, on est où là ?
C'est vrai, on est en dehors de notre jungle digitale. On a la chance d'être invité par Elliot. Bonjour Elliot, merci de nous recevoir ici.
Eh ben, merci à vous, merci à vous. Est-ce que vous pouvez présenter peut-être votre activité, qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, pour commencer l'épisode ?
Allez, honneur au jeune singe, vas-y.
Ah, c'est gentil, merci. Moi, je m'appelle Clément Cahen, je suis avec Olivier le coproducteur, co-animateur, co-rédacteur du podcast Rendez-vous en Terre Digitale. Et à côté de ça, je suis ingénieur pédagogique, je travaille dans ma société que j'ai fondée il n'y a pas très longtemps qui s'appelle POSE. Et j'accompagne des organismes de formation, des entreprises, des écoles, des universités dans tout ce qui a trait à la digitalisation de la formation. Donc que ce soit de l'accompagnement, que ce soit de la stratégie, mais aussi de la production sur des sujets très variés qui vont de l'intelligence artificielle dont on va un petit peu reparler dans cet épisode jusqu'à la réalité virtuelle, les outils digitaux de la formation, etc., etc. Voilà pour faire court.
Okay. Et moi, je m'appelle Olivier. Donc effectivement, j'ai le bonheur extrême d'animer Rendez-vous en Terre Digitale avec Clément, le jeune singe. J'ai d'autres vies, j'ai plusieurs vies, comme tous les singes. J'en ai pas 9, mais quelques-unes. Je suis responsable de l'Abinov, un laboratoire des cultures digitales à l'école IFP School, dans une école d'énergie. À côté de ça, je travaille beaucoup, enfin je m'amuse en fait, parce que c'est vraiment de l'amusement. Je m'amuse et j'accompagne beaucoup de formateurs à digitaliser leur formation. Et je suis fan de jeux de société. Donc je travaille aussi sur la gamification, mais en fait je suis vraiment fan de jeux de société. Donc voilà un petit peu.
Je confirme.
Ouais, c'est clair, j'en ai toute une bibliothèque là sur ma gauche que vous pouvez voir. Ah non, vous ne pouvez pas voir. Voilà un petit peu pour me présenter rapidement.
Du coup, attends, juste rendez-vous en terre digitale. Du coup, tu joues à des jeux de société en digital aussi ou pas ? Ça te parle, ça ? Parce que tu réserves les jeux de société en physique quand même plutôt.
Alors moi, je préfère les jeux de société en physique, d'accord ? Mais il existe une plateforme qui s'appelle BGA, Board Game Arena, et qui transforme tous les jeux physiques en une plateforme où tu peux jouer à plusieurs. Tu retrouves la même sensation que le physique dans un monde complètement digital, d'accord ? Et d'ailleurs, ça a été racheté par une société qui vend des jeux physiques. Et c'est assez rigolo, là, cette intégration physique-digitale dans les jeux. Et ça nous fait penser, parce que beaucoup, quand on met du digital en formation, on dit « Ah non, mais attends, parce que nous, on aime bien le contact humain. » Eh bien, en fait, tu en as quand même. Et dans les jeux de société, le contact humain, moi, je suis très jeu de plateau, il est super important. Eh bien, cette plateforme, BGA, tant pis, je leur fais de la pub, tu retrouves ce contact humain dans le monde entier même.
Moi, je préfère quand même en physique. Je préfère voir Olivier perdre en physique en face de moi, c'est quand même beaucoup plus marrant. Donc je vous conseille quand même de prendre un rendez-vous physique avec Olivier pour pouvoir le voir perdre, c'est très agréable.
Plus marrant et plus dangereux. Remarque, je sais pas quand est-ce que tu m'as vu perdre, parce que le jeu qu'on a joué la dernière fois ensemble s'appelait Terraforming Mars, je t'ai complètement écrasé ainsi que tous tes colocataires.
Ouais, bien sûr.
Génial. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu sur l'origine de ce que vous faites aujourd'hui. Donc, on va changer un tout petit peu de sujet. Pose, notamment, comment est venue l'idée, pourquoi ça existe et qu'est-ce que c'est, un peu plus en détail, peut-être.
Ouais, Pose, c'est ma société que j'ai fondée il y a quelques mois maintenant. C'était en septembre 2023. D'où est venue l'idée ? Ça faisait une dizaine d'années que je travaillais dans le monde de la formation. J'ai eu la chance de faire 3 années en tant que formateur vraiment terrain, un peu aux quatre coins du monde, pour donner des cours sur des sujets très techniques. Après, j'ai rejoint l'école où travaille Olivier maintenant, et j'ai eu la chance d'avoir en chef monsieur Olivier pendant quelques années. Et plus qu'un chef, on travaillait un peu main dans la main pour développer toutes les initiatives digitales et pédagogiques de l'école, et au-delà de l'école même du centre de recherche dans lequel on travaillait. En fait, on a fait un peu d'intrapreneuriat avec la Binov.
Je peux dire un secret ?
Ouais, tu peux.
T'étais même un de mes anciens étudiants.
C'est vrai que avant d'être le jeune Padawan, j'étais un ancien étudiant, tout à fait, parce que j'ai un passif d'ingénieur à la base. Et donc on a développé tout ça avec Olivier, Labinov, voilà, on a essayé de pousser finalement le digital au sein de ce centre de recherche, hein, où il y a quand même plus de 2000-2500 personnes. On a beaucoup travaillé sur les espaces d'apprentissage, j'ai beaucoup travaillé sur la réalité virtuelle, j'ai écrit un bouquin sur le sujet, sur la conception d'expériences immersives. Et donc j'ai vu vraiment un spectre assez large de la formation, que ce soit en ingénierie pédagogique, en conception, mais aussi en production, en animation. On a déployé des MOOC à plus de 30 000 apprenants aux quatre coins du monde. Donc j'ai vu vraiment une palette très large. Et puis au bout d'un moment, la roue doit tourner, donc je suis parti, j'ai rejoint une autre entreprise pour faire du conseil en formation, et en fait à ce moment-là je me suis dit, mais en fait depuis un moment tu rêves de te mettre à ton compte, donc pourquoi pas le faire, t'as des contacts, t'as l'expertise, tu peux t'appuyer sur le bouquin que t'as écrit, plus le podcast qu'on a avec Olivier, donc c'est de là qu'est venue cette idée de monter ma société, qui tourne maintenant depuis quelques mois et qui fonctionne plutôt bien, donc j'en suis très content, et puis j'ai des projets ultra intéressants et qui, là encore, vont sur un spectre assez large, quoi. Ça peut aller de l'accompagnement stratégique d'organismes de formation à de la production de ressources, à de la formation en présentiel, à des conférences. Enfin, c'est très large et c'est ça que j'aime bien. Et donc, je suis très content que POS aujourd'hui fonctionne comme ça et soit une entreprise qui fasse un peu de tout sur le monde de la formation et du digital learning.
Génial. Bah, écoute, félicitations. Moi, il y a un petit truc qui a piqué ma curiosité, je dirais plutôt, c'est la tagline. Alors, c'est « Prenons le temps d'apprendre », il me semble que tu as mis sur LinkedIn. Pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ouais, c'était en effet la baseline. Et donc, du coup, pause. Enfin, je trouve que déjà, ça allait bien avec pause, prenons le temps d'apprendre. En fait, il y a plusieurs trucs pourquoi j'ai mis ça. Enfin, il y a deux raisons principales. La première, ça revient à l'époque où, quand j'étais formateur, je faisais des formations, comme je le disais, un peu aux quatre coins du monde sur les techniques de raffinage et de pétrochimie, donc des sujets ultra techniques. Et quand j'ai découvert la formation un peu sur le tas, comme ça, je me mettais beaucoup en tête que finalement, la formation, c'était important d'être calé techniquement. Il fallait vraiment répondre à toutes les questions des apprenants et je connaissais pas trop finalement les techniques d'animation et tout ça. Et je connaissais pas non plus les temps informels, c'est-à-dire les pauses où tu vas prendre ton café à 10h30 et le midi quand tu parles avec tes apprenants. Et je me suis rendu compte en fait que cette formation informelle, elle était ultra importante, d'où l'idée de pause et de prendre le temps d'apprendre. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que dans les entreprises, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure en tout cas, mais on prend pas suffisamment le temps de monter en compétences soi-même. C'est-à-dire qu'on est embourbé dans ses affaires du quotidien, on fait des trucs, on répond à des problématiques parce que on a des objectifs à remplir. Mais finalement, notre montée en compétences intrinsèque, on prend pas le temps de le faire, pas suffisamment le temps. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, à un moment, prends une pause là, prends un peu de recul, regarde un peu ce que tu as besoin comme compétences, qu'est-ce qui pourrait être utile en compétences techniques, non techniques, et forme-toi, quoi. Et donc c'est de là d'où vient prenons le temps d'apprendre.
Tu viens de me donner deux informations super intéressantes. Je voudrais revenir sur la première. Donc, tes cours étaient moins bien que la pause café, c'est ça que je comprends. Qu'est-ce qui fait que la pause café était mieux ? Pourquoi la pause café, c'est important ?
Non, c'est pas que c'était moins bien ou que c'était mieux, c'est que on a tendance, en tout cas, à pas considérer ces temps de formation informels, parce que ça reste pour moi des temps de formation informels, comme justement des temps de formation. Et j'en ai vraiment pris conscience sur le terrain, quoi. Et en me disant au café, on me pose toujours des questions, mais de manière beaucoup plus détendue, etc. Et c'est là où je me suis dit qu'en fait, ces temps, ils étaient ultra importants pour apprendre aussi pour les apprenants, quoi.
Donc, c'est pas que c'était moins bien, mais c'est différent. Ils osent plus poser de questions à ce moment-là.
Ouais, ils osent plus poser de questions, ils échangent entre eux, alors que dans une salle plus classique, avec des tables collées les unes à la suite des autres, où tu suis un cours il peut être ultra interactif, ultra dynamique, etc. Bah, tu restes dans ce carcan formation, et quand tu es à la pause café, t'en sors.
D'accord. Voilà. Ouais, alors j'imagine qu'Olivier, tu as des astuces pour dans la classe dynamiser quand même un petit peu tout ça, faire en sorte qu'ils n'attendent pas la pause café, peut-être des outils. Tu peux me raconter un petit peu tes astuces ?
Ouais, bien sûr. Alors, c'est marrant, Clément, que tu dises que tu as appris ça quand tu as commencé les formations, parce que moi, je me rappelle quand tu étais étudiant, tu étais quand même beaucoup au post-café, hein, tu avais bien compris la formelle. Mais ouais, j'ai plein d'astuces, évidemment. Alors, ce qui est quand même intéressant dans ce que dit Clément, c'est que c'est vrai que ces moments de pause, alors, quand on est en présentiel, c'est vraiment la pause café, c'est comme ça qu'on imagine, mais c'est là où se crée le groupe aussi. Alors, bien sûr, on a, pour répondre à ta question, on a des astuces pour créer des groupes, d'accord ? Donc, on va pouvoir utiliser, moi, c'est ce que j'appelle utiliser l'astuce de la présence. C'est-à-dire que quand on fait des formations, alors en présentiel, c'est facile, l'astuce de la présence, parce qu'on est physiquement là. Mais par exemple, à tes apprenants, avant qu'ils arrivent au présentiel, il faut qu'ils te connaissent déjà un petit peu. Donc, il faut leur envoyer une petite vidéo, un petit podcast, j'adore les podcasts, une petite vidéo, un petit podcast, une petite ressource qui fait qu'ils vont pouvoir finalement enlever leur peur du formateur. C'est-à-dire, qui est-ce que je vois, je te connais. Et ça, c'est super important. Moi, j'adore en présentiel quand les gens me disent « Ah, Olivier, presque, il commence à te tutoyer. » Moi, je suis belge, on tutoie tout le monde. En France, c'est un petit peu plus compliqué, il y a une étape à passer. Mais ce qui est super, c'est d'essayer déjà de briser cette glace formateur-apprenant pour créer un groupe apprenant, en fait. Et ça, c'est quand tu es en présentiel. Quand tu es à distance, c'est encore plus important. Et là, tu vas pouvoir utiliser plein d'outils distanciels. Alors, il y en a plein, mais le but, c'est de créer de la présence. Alors, par exemple, dans des parcours qui sont un petit peu longs où tu vas mettre des petites vidéos, d'accord ? Généralement, on met des vidéos pour donner du contenu. Eh bien, moi, je pense que c'est très important de mettre des vidéos juste pour faire de la présence. J'appelle ça des vidéos qui servent à rien. C'est-à-dire que tu es là, tu vas expliquer ce qui va se passer, tu vas les accueillir, tu vas créer un moment de partage. J'ai, par exemple, je travaille pour une OF et on fait tout à distance pendant un mois. D'accord ? Donc, tout à distance, sauf 4 classes virtuelles de 30 minutes. Donc, ça veut dire que le vrai temps synchrone, c'est 4 fois 30 minutes, ça fait 2 heures. Et bien, un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus, c'est un des apprenants qui m'a dit « Tu sais, Olivier, j'ai l'impression d'avoir passé un mois avec toi. » Et en fait, en réalité, on s'est vu que pendant 2 heures. Et c'est ça qui est important. Donc, c'est pour rebondir sur ce que dit Clément, ces moments de formation informelle où tu crées le groupe. Et bien, en ingénierie pédagogique, il faut y penser quand tu es en présentiel, c'est-à-dire faire de l'avant ton présentiel, d'accord ? Et quand tu es dans un système mixte ou avec beaucoup de distanciel, il ne faut pas hésiter à créer des moments de présence. Donc, mes trucs, c'est créer de la présence humaine, en fait. La formation, c'est de l'humain, d'abord. Hein. Avant apprendre des lois, apprendre des procédures, apprendre à faire ceci, apprendre à faire du management, c'est d'abord de l'humain. Et créer le groupe, ben, c'est ça qui va faire que ça va être magique ou pas.
Est-ce que vous avez d'autres astuces pour créer des groupes ? Est-ce que vous utilisez des outils, par exemple, moi j'ai entendu plusieurs fois des organismes de formation me dire bah, « j'utilise Discord, j'utilise Slack, j'utilise… » Est-ce que ça, c'est des choses dans lesquelles vous croyez ou pas trop ?
C'est intéressant parce qu'on discutait il n'y a pas très longtemps justement avec quelqu'un qu'on va inviter bientôt dans nos podcasts, des communautés apprenantes et des communautés de pratique. Et bon, moi j'ai un regard assez… comment dire ? Assez particulier, on va dire, sur les communautés apprenantes, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, oui, il y a des outils qui peuvent permettre de le faire, mais l'outil, c'est 10% de la solution. En fait, le problème aujourd'hui avec ces communautés apprenantes, quand on veut créer des groupes comme ça en distanciel, comme le disait Olivier, ce qui est important, c'est de créer de la présence à distance. Et ces communautés, ces espaces où on va laisser des messages pour poser des questions, etc., bah, on voit que si c'est pas animé par des vrais humains derrière et qu'il n'y a pas une réelle capacité finalement des formateurs ou des animateurs de gérer cette communauté, bah, ça ne fonctionne pas. Et puis, il faut que la communauté aussi elle ait un sens. C'est-à-dire pourquoi les gens viennent sur cette communauté, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, qu'est-ce qu'ils viennent apprendre. Et voilà, c'est là où des fois, je trouve qu'on entend beaucoup en effet parler de communauté apprenante, on essaye d'en mettre en place, mais j'aimerais bien trouver le petit truc qui fasse que ça fonctionne. Aujourd'hui, je n'ai pas forcément la solution. Je ne pense pas que ça passe par l'outil, en tout cas.
Pour l'instant, vous n'avez pas vu de bons exemples de communautés là, à vos yeux ?
Il y en a sûrement, je ne sais pas Olivier si tu as des exemples, mais il y en a qui doivent, il y en a sûrement. Hein. Mais est-ce que j'en ai vraiment vu qui fonctionnaient, moi de mes yeux ? Pas vraiment, il y a des trucs qui se mettent en place et après ça se fatigue assez rapidement, les gens viennent prendre de l'info, il n'y a pas forcément d'échange, est-ce que c'est vraiment ça une communauté apprenante ? Donc bon voilà, moi ça me fait me poser beaucoup de questions ces communautés apprenantes.
En fait, le problème de ces communautés apprenantes, c'est quand on fait de l'ingénierie de formation, c'est quelque chose qu'on traite souvent à part, après, en parallèle, et pas tellement qu'on intègre directement dans la façon de créer ce groupe. À distance, c'est encore plus important qu'en présence. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on vient tous du présentiel. Enfin, beaucoup d'entre nous venons du présentiel. Même le jeune singe, il a commencé au présentiel, et pourtant, Dieu sait qu'il est jeune. Hein. Et on vient de ce présentiel où finalement, ben, le contact humain, il se crée presque naturellement. Le fait de passer en hybride ou en distanciel, grâce au Covid, moi je dis grâce au Covid, hein, et ben, on n'a pas... Tout le monde n'a pas encore changé ses façons de faire, et même on est beaucoup à ne pas avoir changé nos façons de faire, et donc on ne pense pas à créer ces communautés, ce qui fait que c'est souvent un petit peu le parent pauvre, et pourtant c'est super important. Alors, il y a quand même des outils qui aident, mais moi mon leitmotiv c'est les usages avant les outils. C'est-à-dire qu'un outil, c'est qu'un outil, c'est pas l'outil qui va faire que la communauté elle fonctionne, mais c'est plutôt L'ingénierie que tu auras mis dedans, l'ingénierie tutoriale ou apprenante où on met ce qu'on veut là-dedans, mais c'est ça. Donc moi, un outil que j'utilise qui est super simple pour créer une petite communauté, ben, c'est par exemple Padlet. Alors, c'est pas fait pour ça, mais moi, c'est un de mes outils préférés. Et par contre, pour que ça marche, moi, j'adore porter des nœuds papillons. C'est vrai que je n'en ai pas là, mais vous ne le voyez pas. Mais pour que ça marche, je mets par exemple, faites-moi des blagues. Enfin, tu vois, il se passe un truc. Il y a une de mes formations où ils ont tous posté en se concertant. Ils sont tous venus avec un nœud papillon, ils ont tous posté dans ce Padlet une photo de nœud papillon en fin de formation. Et ça veut dire que tu as créé un groupe. Ça, si tu veux, c'est un outil digital. Mais après, il y a des modalités. Donc, je monte au-dessus de l'outil, je monte au niveau des modalités. Par exemple, l'afterwork. Tu vois ce que c'est, l'afterwork, hein? C'est, alors, dans les entreprises, l'afterwork, c'est on va boire un verre après, d'accord? Et puis, on va continuer à apprendre, mais on va créer un groupe. Ça marche super bien. Il y a beaucoup d'endroits où tu vas boire des verres après avoir travaillé. Eh bien, c'est recréer ces afterworks en ligne. Et c'est d'aller chercher des outils qui permettent de faire ça. Alors, si je veux donner des outils, bah vas-y Clément, il a levé la main.
Bah, y en a un qui est super, qui s'appelle Global, solution française qui permet de faire des espèces de visio sur différentes tables. Donc, tu peux te balader. Donc, ça peut être très cool pour des afterworks parce que tu peux avoir des sujets différents et se faire bouger les gens de table en table, par exemple.
Ouais, il y a Global, j'adore cet outil. Ce que je regrette un petit peu ces derniers temps, c'est qu'ils ont monté beaucoup le prix pour pouvoir l'utiliser. Je le dis, Global, coucou. Mais j'adore cet outil, il est super et il est parfait pour faire des afterwork. D'accord ? Et là, vous avez cette liberté parce que l'afterwork, c'est je peux aller discuter. Et ça, c'est important et ça fait partie de la formation. D'accord ? Et là, tu crées des groupes, finalement, tu crées une communauté. Et c'est super important. Hein. Je crois que c'est Philippe Carré qui dit on apprend seul, mais jamais sans les autres. Et ben voilà, il ne faut pas l'oublier, ça, le jamais sans les autres. Et ça veut dire, dans les ingénieries pédagogiques, ben il faut le prévoir. Et il faut le vendre à ton client, ce qui est super difficile, d'accord ? Mais il faut lui montrer que c'est super efficace. Et moi, j'y crois à ça.
Et il y a quand même quelque chose qui me triture dans cette histoire, c'est qu'en tout début, je vous ai entendu dire que vous avez fait des MOOC avec 30 000, je crois, apprenants, c'est ça, à travers le monde. Il y avait des communautés dans ces MOOC. Est-ce que c'était un facteur de réussite aussi ou est-ce qu'il y avait une autre méthode qui était appliquée à ce moment-là?
Il y avait des communautés qui étaient mises en place avec, à l'époque, avec des systèmes de forums. Alors, est-ce qu'on appelle ça une communauté? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait une vraie animation de communauté. C'est-à-dire que l'animation de la communauté, elle était pensée. C'est-à-dire que les messages qu'on allait déployer à différents moments, qu'on allait envoyer à certains types de personnes, etc., etc., c'était réfléchi. Et en effet, l'ingénierie pédagogique du truc était réfléchie. On avait fait du sérieux et du pas sérieux. Hein. Je me souviens d'un MOOC dans lequel on avait fait des jeux. C'est-à-dire que tous les mardis et tous les vendredis à midi et à 19h, parce qu'il y avait différents fuseaux horaires, donc il fallait que tout le monde puisse jouer au jeu et avoir une chance, il y avait des jeux qui étaient balancés sur la plateforme, des jeux entre guillemets qui reprenaient la thématique visuelle, le storytelling qu'on avait mis en place, mais qui n'avaient pas vraiment de lien finalement avec ce qu'apprenaient les apprenants. Et ceux qui réussissaient le jeu le plus rapidement, ils gagnaient, là en l'occurrence, un bouquin en réalité augmentée qui résumait l'ensemble du MOOC avec toutes les vidéos, tous les documents PDF. Donc c'était vraiment on appelait le Mobile Book et l'Energy Book. C'est un tout petit bouquin en fait qui permet de résumer un MOOC entier avec des sketch notes, des fichiers PDF et des vidéos qui sont intégrés dans des jolies illustrations en réalité augmentée. Donc ça, c'était trop cool. Et là, ouais, on a généré quelque chose parce que il y avait ce petit truc, quoi. T'as envie de venir, t'as envie de gagner, t'as envie d'être le premier, t'as envie de réussir. C'était de plus en plus compliqué, donc il y avait de plus en plus de monde qui venait. Et en effet, on arrivait à faire venir énormément de gens. On avait beaucoup de participants, quoi. Alors après, voilà, sur un MOOC, en effet, à 30 000 personnes, ce MOOC, le premier, le M de MOOC, c'est massif. Donc forcément, c'est ultra massif. T'as énormément de personnes. Tu te dis bien qu'il n'y a pas 30 000 personnes qui vont faire le jeu. Mais on avait quand même des résultats assez intéressants. Puis on avait des taux de complétion du MOOC à 15-20%. Et je pense que le fait d'avoir une animation de communauté qui était réfléchi, pensé et qui venait rechercher comme ça petit à petit les apprenants, qui les faisait échanger entre eux, entre pairs, etc. Et ben, ça participait au fait que le taux de complétion du MOOC, il était 5, 6 ou 7 fois plus important que sur la moyenne des MOOC.
Ce que j'allais dire, il faut mettre un petit peu en perspective parce que 15-20%, ça peut paraître très peu finalement quand on compare. Je vais dans une école de commerce, je m'inscris, heureusement qu'il n'y a pas que 15% des étudiants qui en sortent. Ce serait un peu embêtant. Donc, ouais.
Mais sur du MOOC, la moyenne, en tout cas il y a quelques années, c'était entre 3 et 6%, je crois. En complétion, c'est l'ensemble des apprenants qui vont au bout du parcours et qui sont certifiés s'il y a une certification ou qui ont un diplôme s'il y a un diplôme à la fin. Enfin bref, qui font l'ensemble du parcours. Là, on est arrivé à des MOOC à, en effet, 15, 20, 30 000 personnes et on est arrivé à des 20-25% de complétion. C'est énorme.
On est même allé jusqu'à inviter des gens sur place parce qu'il y a un groupe de Rueil-Malmaison qui ont appris ensemble, qui se sont retrouvés sur la plateforme, qui ont créé un moment, ils apprenaient ensemble dans un café ou dans un lieu et ils l'ont dit. Et cool, en fait, nous qui avons organisé le MOOC, on les a invités pour voir les profs en vrai. Et ça, c'était rigolo. On est allé, alors ça, évidemment, on pouvait le faire que dans ce petit cercle, mais ils avaient créé, ils se connaissaient pas, ils avaient créé une petite communauté d'apprentissage autour de, nous, on était à Rueil-Malmaison, autour de Rueil-Malmaison. On s'en est rendu compte et on les a invités physiquement à discuter avec nous. Et ça, c'est rigolo. Maintenant, Elliot, il faut être clair, hein, quand tu as des communautés de 30 000 personnes, il ne faut pas s'attendre à créer quelque chose de fort. Hein. Là, on est dans la partie un peu compliquée du MOOC, c'est le M de massif. Par contre, quand tu descends au SPOC, le Small Private Online Course, c'est-à-dire que tu réduis ce MOOC à des entreprises où vraiment tu fais, là, je dirais vraiment de la formation, en fait, et un peu moins d'information, tu vois, il y a toujours cette limite entre les deux, et bien là, la communauté apprenante, par contre, elle marche super bien. D'autant plus si les gens se connaissent déjà et viennent d'une même entreprise. Enfin, on aura d'autres difficultés, peut-être. D'accord ? On aura la difficulté d'être jugé par tes pairs ou des choses comme ça. Il faut gérer. Ah ben oui, quand les gens ne se connaissent pas, tu n'as pas ce problème-là. Les conversations sont plus libres. Quand tu es dans une société, eh ben, t'as, surtout en France, hein, tu as toute cette hiérarchie qui existe peut-être pas dans d'autres pays, bah, comme la Belgique, où franchement, la hiérarchie elle est abordée de façon complètement différente, hein, pour être honnête.
Ok, alors différente comment ? Ça veut dire quoi ?
À différents.
Curieux d'avoir le petit retour.
Et ben, moi, j'ai eu la chance de travailler en Hollande, en Belgique et en France. Hein. C'est clair que la France est encore, alors je ne vais pas me faire beaucoup de copains, mais très inspirée du système de Louis XIV, c'est-à-dire que tu as un roi et puis ça descend par ses vassaux. Et c'est vraiment comme ça. C'est un système qui ne permet pas beaucoup de liberté. En Belgique, ton chef, même ton super chef, tu le vois, il est habillé comme toi, c'est-à-dire qu'il n'a pas de cravate, tu n'arrives pas à le distinguer. Il est habillé comme toi, tout à fait normalement, il a un suite, il vient discuter avec toi. Ça ne change pas qu'il a des exigences et qu'il sera capable de te licencier l'après-midi, parce qu'en Belgique, on a des systèmes de licenciement, on n'a pas ce CDI qui te bloque tout. Mais c'est des deux côtés. Voilà. Et donc, si tu veux, tu as un rapport à la hiérarchie qui est naturel. Donc, les gens, ils vont... Et peut-être plus respectueux, parce qu'on n'a pas tout ce système que j'appelle le système Louis XIV. Bon, alors, ok, je suis un petit peu trop loin. Mais c'est vraiment différent. Si tu as la chance d'aller travailler en Belgique ou en Hollande, waouh, mais quelle fraîcheur, quoi.
Donc, c'est lâcher les apparats.
Pardon ?
Il faut lâcher les apparats, il faut être beaucoup plus proche, finalement, et peut-être plus flexible. Du coup, c'est ça que je comprends.
Et puis, les gens vont te dire ce qu'ils pensent. Par exemple, ils vont dire, ça, je trouve ce que tu dis, et ils ne vont pas prendre de feed. C'est complètement con. Par contre, c'est toi le chef, donc on va en discuter, je trouve ça con, ok, on va y aller, et une fois que la décision elle est prise, tout le monde va y aller, d'accord ? Tandis qu'en France, quelquefois on prend la décision, mais on continue à discuter derrière. Là, c'est pas le cas. Enfin, j'ai eu la chance de travailler en Hollande, en Belgique, pas mal, et c'est vraiment différent. J'adore la France, hein, quand même, ne me jetez pas.
Ça marche. Et tu as dit quelque chose, Clément, un petit peu plus tôt, tu parlais de réalité augmentée ou virtuelle. Là, on a le Apple Vision Pro qui vient de sortir, réalité mixte. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Est-ce que vous avez des technologies qui vous inspirent et vous pensez qu'elles vont arriver dans la classe ? Est-ce que vous faites des petits tests là-dessus ?
Réalité virtuelle, on a beaucoup travaillé dessus. Hein. Moi, quand j'étais à l'école, quand je travaillais au centre de recherche, l'IFPEN, je suis resté 7 ans. Du moment où je suis entré jusqu'à la fin, j'ai travaillé sur la réalité virtuelle. Au début, en essayant d'aller faire des visites virtuelles 360 sur des unités industrielles. Et puis à la fin, en déployant carrément un laboratoire de réalité virtuelle où on pouvait immerger jusqu'à 10 apprenants en même temps, en multi-utilisateur ou non, avec tous les systèmes qui vont bien pour simplifier la vie aux formateurs et aux apprenants, bien sûr, dans la prise en main des trucs. Donc, j'ai vraiment fait pendant 7 ans, du début, vraiment, on achète une caméra à la FNAC à 300 balles, à la fin, où on a des technos et des modules pensés pour la pédagogie intégrés dans les déroulés. Donc, en effet, la réalité virtuelle, moi, j'en ai fait un petit paquet. Qu'est-ce que je pense de tout ça ? Je pense que c'est une modalité comme une autre, en fait. C'est-à-dire que la réalité virtuelle, elle doit être intégrée dans des parcours de formation et ça doit être pensé, comme on parlait tout à l'heure des communautés. Bah, là, c'est exactement la même chose. Hein. Une réalité virtuelle qui fonctionne, c'est avant tout une réalité virtuelle qui est intégrée dans un déroulé pédagogique de manière intelligente, avec un avant, avec un après, avec une phase de briefing, avec une phase de débriefing, où on vient apprendre des choses. Il ne faut pas penser que parce qu'on met un casque sur la tête, on va à la fin avoir des compétences et on va être meilleur. Non, c'est, il faut que ce soit intégré dans le parcours de formation et bien intégré dans le parcours de formation.
Mais alors, il y a quand même forcément quelque chose qui est un petit peu différent. Est-ce que c'est juste le caractère nouveau qui fait que les gens apprécient parce que sinon, on ne le ferait pas si c'est. Parce que c'est quand même vachement plus cher que de faire le reste. Donc, est-ce que c'est juste une question de prix? Et finalement, dans ce cas-là, c'est peut-être un peu supérieur, parce que autrement dit, si c'était pas cher, est-ce qu'on le ferait beaucoup plus ou est-ce que, en fait, c'est juste un petit loisir, un petit aparté, là, qu'on teste le temps que c'est nouveau et qu'on
s'amuse. Non, mais je pense pas que ce soit un aparté. Hein. Je pense qu'en fait, il faut avant tout se poser la question de est-ce que c'est la bonne modalité qui répond à l'objectif pédagogique que je vise, quoi. Est-ce que c'est la bonne activité? Si tu veux développer un module de réalité virtuelle qui va en effet coûter beaucoup plus cher que d'autres activités ou modalités pédagogiques pour atteindre un objectif que tu aurais pu faire autrement. J'extrapole, mais si tu peux atteindre un objectif pédagogique en regardant une vidéo de 5 minutes et que toi tu le fais en réalité virtuelle, bah pourquoi t'embêter à faire de la réalité virtuelle? Il y a un truc que je dis souvent, hein, c'est pour choisir la réalité virtuelle, enfin en tout cas il faut se poser la question de savoir si la réalité virtuelle est la bonne modalité, et la bonne question à se poser c'est est-ce que finalement la situation que vous voulez reproduire en réalité virtuelle, elle suit l'acronyme RIDE, R-I-D-E, est-ce que la situation est rare, impossible, dangereuse ou expensive, donc chère. Si ça répond à un ou plusieurs de ces critères, là, on peut commencer à se poser la question de « Ah ok, je vais transposer cette séquence pédagogique en une activité en réalité virtuelle. » Si je veux envoyer 60 étudiants sur, je sais pas moi, une usine pour faire un démarrage de pompe, ça coûte cher, c'est dangereux potentiellement, parce que dans les pompes, il y a des produits chimiques qui se baladent. Parfois, c'est très rare de pouvoir le faire, parce qu'il y a rarement une entreprise qui va vous dire « Ah bah allez-y, prenez mon matos et démarrez ce que vous voulez. » Donc là, on remplit trois des objectifs. Bah là, ça vaut le coup de se poser la question, est-ce que je ne peux pas le faire en réalité virtuelle? Et c'est ce qu'on a fait à l'école, du démarrage d'équipements industriels. Oui, c'est une modalité qui coûte cher, mais quand tu mets en face par rapport à trouver une entreprise qui veuille bien t'accueillir pour le faire avec 60 étudiants, bah, t'as vite fait le ratio et t'as vite fait d'avoir
c'est
un impact
important en réalité virtuelle. C'est peut-être pas demain qu'on va apprendre les maths en réalité virtuelle, quoi.
Bah, s'il n'y a aucun intérêt à le faire, je ne dis pas qu'on ne va jamais apprendre les maths en réalité virtuelle, peut-être qu'un jour, il y aura des modules incroyables dans lesquels on va pouvoir se mettre dans des espaces trigonométriques pour pouvoir mieux comprendre ce que c'est les nombres irréels, enfin j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais si ça a un vrai intérêt pédagogique, pourquoi pas? Mais en effet, si c'est pour faire 2 plus 2 égale 4, non, je ne vois pas trop l'intérêt.
Nous, à l'école, on n'utilise pas ça comme un gadget, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'on a au moins une dizaine de cours qui sont clairement dans nos processus d'apprentissage. On n'est plus dans le gadget du tout, d'accord? Alors pourquoi on ne développe pas plus? Parce que c'était ça le fond de ta question. Bah, moi, je dirais comme ça, il y a 3 choses. Un, tu as raison, c'est l'argent, hein. Ok? Bah ouais, ça coûte cher, donc voilà.
Les prix baissent quand même.
Hein?
Les prix baissent quand même. Les prix baissent, mais ça reste une modalité assez chère.
Deux, c'est le problème des compétences, d'accord ? C'est-à-dire que tu as la compétence pour créer les modules, alors ça se trouve. Mais n'oublions pas que la personne qui enseigne, c'est un prof qui est un prof de pompe, et lui, la réalité virtuelle, il se retrouve avec des casques, des manettes, des étudiants dans une pièce qui sont reliés à des fils et qui sont 10 à dire « je sais pas faire ça, je sais pas faire ça ». Donc en fait, tu mets l'enseignant, parce que moi je parle de prof, ou le formateur, dans une situation qui est hyper difficile à gérer. C'est-à-dire qu'il doit gérer sa pédagogique, son objectif pédagogique, c'est quand même le but numéro un, plus tout le côté technologique. Et ça, c'est un vrai. Et je pense qu'on n'a pas encore trouvé quelque chose de super simple là-dedans. C'est-à-dire que l'appareillage, ça marche, c'est facile. Quand tu es tout seul et que tu joues, c'est bien. Mais quand on a 10 autour de toi, ouais, ça change tout. Et la troisième chose, c'est comment tu dois vraiment aussi, c'est encore dans la compétence, mais pour le formateur, comment tu débriefes? Parce que quand tu as mis des gens dans une expérience en réalité immersive, tu vas jouer sur leurs émotions. Alors, ok, hein, émotion, on ancre mieux, nanana, ça augmente l'empathie, enfin, tout ce truc-là, ok, c'est vrai. Mais tu dois apprendre à tes formateurs à débriefer ces émotions. Et ça, c'est super important. Et un formateur, quand il débriefe, qu'est-ce qu'il fait? Il fonce sur son objectif pédagogique. Et là, tu dois développer des nouvelles techniques d'évaluation qui existent, hein, et de débriefing avec tes apprenants qui ils vont aller débriefer leurs émotions. C'est-à-dire, t'as bien aimé? T'as pas aimé? Qu'est-ce que t'as pas aimé? Et en fait, le but, tout ça, je vais dire, on s'en fout. C'est comme quand on débriefe un jeu, hein. Moi, par exemple, comme disait Clément, j'aime pas perdre. Quand j'ai perdu, moi, s'il me demande mon émotion, je dis « j'aime pas ce qu'on a fait, j'ai perdu, c'est nul ». J'ai besoin de vider cette chasse-là. Et après, le formateur, il peut revenir, ok. Et ça, quelque part, le formateur, il s'en fout de ça. Juste, il descend en pression. Tu sais, c'est comme quand tu arrives à un podcast et que tu n'arrives pas à brancher ton micro. Une fois que tu l'as très bien géré, ça, Elliot, tu m'as évacué ça. Mais une fois que ça s'est évacué, je peux participer au podcast. Je peux, moi, dans les jeux, dire « eh ben, en fait, j'ai compris l'objectif pédagogique ». Et ça, c'est important. Donc, je dirais le prix. Le matériel, mais surtout la gestion du matériel par le formateur et le débriefing. Et donc, tout ça fait que c'est beaucoup plus compliqué qu'une autre modalité, mais beaucoup plus puissante, hein, aussi.
Alors là, on a parlé de la VR. Est-ce qu'il y a d'autres modalités, d'autres technologies, qui vous intéressent et qui vous excitent pour l'avenir?
Bah, il y en a une, la techno du moment, il y a l'intelligence artificielle là, qui arrive et dont on entend beaucoup parler, et qui, je pense, oui, est une technologie d'avenir pour les formateurs, les concepteurs, les ingénieurs pédagogiques, dans le sens où ça va quand même permettre de faire des choses plus rapidement, d'être aussi créatif sur, certaines choses. Enfin, bon, je ne vais pas relister tous les usages et tous les bénéfices de cette techno, parce qu'il y en a plein, mais je pense que c'est un vrai truc à développer. Alors, je ne dis pas que c'est simple, mais en tout cas, il faut développer ses compétences, je pense, sur les outils d'intelligence artificielle, sur aussi la techno de comment ça marche. Il ne faut pas penser que parce que c'est une boîte noire, on considère ça comme une boîte noire. Moi, je pense que c'est important quand même de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la boîte noire pour démystifier, d'une part, et puis appréhender les possibilités et les limites. Quand tu as compris comment ça fonctionnait un outil d'intelligence artificielle générative, je pense que c'est plus simple derrière de te dire « Ah bah oui, je pourrais faire ça et je pourrais pas faire ça, ou il faut que je fasse attention à ci, ou il faut que je fasse attention à ça. » Donc l'intelligence artificielle, pour moi, c'est quelque chose qui va vraiment aider tous les métiers de la formation, quoi. Et aider, c'est en effet gagner du temps, aller plus vite, aller plus loin, et pouvoir finalement ce temps qu'on a gagné, là, le remettre sur quelque chose qui, pour moi, est primordial dans la formation, c'est l'humain, quoi. Si je gagne du temps et que je passe pas 4 heures à corriger des copies, mais que j'en passe que 2, les 2 heures restantes, je peux les repasser à accompagner mes apprenants qui ont eu des problèmes sur leurs copies. Donc tout ça, c'est un truc qui va se mettre en place, qui prend du temps, qui est pas simple. Dans les organisations, c'est très compliqué, hein. Moi, je fais des formations là-dessus depuis quelques mois, j'essaie d'accompagner des entreprises là-dessus, et on voit qu'il y a des problématiques diverses et variées, mais qui sont très concrètes et auxquelles il faut répondre. C'est pas simple d'y répondre, mais ça va venir petit à petit, et je pense que c'est important de se former sur cette techno.
Donc, de ton point de vue, évacuer les tâches à faible valeur ajoutée en premier, puis peut-être après aller plus loin.
En fait, il y a plusieurs trucs. Il y a deux angles, il y a ça, ouais, évacuer les tâches à faible valeur ajoutée, d'une part, et puis pouvoir s'augmenter avec des outils, quoi, parce que il y a plein d'outils aujourd'hui qui sont boostés à l'intelligence artificielle, qui vont permettre de créer des nouvelles choses, d'aller plus loin. Encore ce matin, là, je testais des trucs pour générer des images 360 à partir d'un outil de text-to-image, donc un outil qui permet de transformer un prompt, une requête, un texte en une image, mais celle-ci elle est en 360 degrés et je vais pouvoir ensuite l'utiliser dans un parcours pédagogique dans un module pédagogique. Avant, c'était de voir. Là j'ai pris Midjourney, donc là je m'amuse à mettre les bonnes requêtes qui vont bien, à écrire les bons prompts qui vont bien pour avoir une image équirectangulaire d'un ratio 2:1 avec la distorsion qui va bien pour pouvoir ensuite le passer dans un logiciel comme Sphere ou comme 3D Vista ou comme il en existe pas.
Mais t'as trouvé l'astuce pour faire ça, très
bien. J'ai trouvé, je fais de la veille et je fouine beaucoup sur les internets, donc c'est pas moi qui ai trouvé. J'ai plus le nom de la personne, mais je le citerai volontiers. Mais en effet, il y a des gens qui réfléchissent là-dessus et en fait, tu vois que ça ouvre un potentiel créatif de dingue, quoi. Tous les gens, ce qu'ils font, c'est incroyable. Il y a des gens qui arrivent à faire des trucs incroyables et juste par la maîtrise des outils et la maîtrise de la techno. Donc, je pense que ça va aussi être finalement un deuxième bras droit au formateur, une autre boîte à outils pour l'augmenter et lui permettre de faire encore des trucs plus incroyables. Je pense à l'Académie Cannes. Où ils sont en train de développer des chatbots boostés à l'IA pour accompagner les apprenants qui sont tout seuls derrière leur ordi. Mais c'est génial. Faut y aller. Un formateur, il n'est pas dispo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si tu arrives à créer des bots comme ça qui répondent à des problématiques d'apprenants tout le temps, sans forcément d'ailleurs leur donner la réponse, mais en leur suggérant des pistes pour que eux, ils apprennent par eux-mêmes, c'est incroyable. Allons-y, pourquoi on n'y va pas? Donc c'est trop bien. Il y a plein de trucs positifs à voir là-dedans. Après, bien sûr, il y a aussi les aspects un peu moins luxuriant et qu'on aime bien mettre en avant quand on n'aime pas trop ces technos-là, mais je pense que de toute façon, on va pas y couper et on va y passer. Enfin, il faut voir ces outils comme des nouvelles opportunités, je pense.
Olivier, un avis différent sur l'IA ou tout pareil?
Non, j'ai beaucoup changé sur l'IA. J'ai évolué. Non, je pense que j'ai le même avis. Ça remplacera, rassurez-vous, ça remplacera jamais l'homme. D'accord,
c'est clair. Voilà,
il y a en tout cas aujourd'hui, il n'y a aucun risque.
Jamais dire jamais, je crois.
Ouais, t'as raison. Surtout, j'étais en train de dire ça et je pensais à comment il s'appelle, celui dont il y a eu le film Clément, faut que tu m'aides, j'ai un trou de mémoire. Turing, voilà, c'est ça. Turing disait, il a été, alors il n'a pas été à l'origine de l'IA, mais il a travaillé là-dessus. Et il y a une de ses phrases qui disait, à la fin, bah, l'IA va pouvoir remplacer l'homme et ce sera pire quand ils commenceront à discuter entre eux. Voilà. Et donc, c'est pas la phrase exacte, mais effectivement, lui, il a prédit un futur où les hommes existaient quasi plus, d'accord. Et c'était pas qu'un, si on, il faisait pas que la science-fiction, hein, c'était un vrai mathématicien. Donc, faut jamais dire jamais. Tu as raison. En tout cas aujourd'hui, faut rassurer les gens en disant c'est comme si vous aviez un assistant quoi et qu'il faut discuter avec lui. Je connais quelqu'un qui dit Ania, c'est comme un bon stagiaire. Si tu le cadres pas bien, tu auras quelque chose de pas bien. Si c'est un bon stagiaire et que tu l'as bien cadré, tu auras un truc super. Voilà. Je pense qu'il faut quand même pas oublier dans tout ça, dans toutes ces technologies, il faut pas oublier les gens en fait. Parce que de nouveau, pour moi, la formation, c'est d'abord des gens. Et je pense que la relation humaine, le contact humain, bah, c'est super important. Et le digital permet ce contact humain quand on est à distance, parce que moi, je le pense vraiment. L'IA peut-être aussi, parce qu'on va créer des ambiances ou des choses qui vont avoir plus de contact. Voilà. Maintenant, si tu me demandes la modalité ou l'outil révolutionnaire qui va arriver, je ne sais pas. Enfin, j'en rêve une peut-être, mais je ne sais pas.
Ça marche. Alors, j'ai profité du fait que tu as évoqué Alan Turing pour remonter un petit peu dans le temps. Et on va aussi rendre hommage à Ada Lovelace. Je pense qu'on n'est pas assez des femmes en avant, qui a beaucoup participé à tout ça. Et j'en profite pour dire qu'il y a eu un épisode avec Ada Tech School sur formation et innovation, si jamais vous voulez écouter un point de vue un petit peu différent sur la formation. Et une super personne qui a lancé cette école. Ce que je vous propose, parce que je vois le temps qui défile, c'est de passer aux questions de la fin, si vous êtes prêts. Donc, je vous invite à répondre tous les deux, l'un puis l'autre, éventuellement. Donc, la formation en 10 ans, pour vous, c'est quoi ?
Matrix. C'est le film Matrix, c'est-à-dire tout le présentiel, d'accord ? Enfin, tout le magistral, tu le mets dans une disquette, tu le charges, hop, comme ça, cling, ça arrive, t'as tout le magistral. Par contre, le présentiel continue à exister. Tu te rappelles Néo, il faisait du judo, il avait toutes les prises, mais il devait s'entraîner pour être le meilleur. Et ça, j'adorerais. J'adorerais que tout le magistral, tu vois, la classe inversée, mais puissance 10 milliards. C'est-à-dire, hop, je t'envoie, je te touche les deux temps, paf, t'as tout. Par contre, on s'entraîne ensemble. Le présentiel reste magique. Ouais, voilà, Matrix.
Faut que j'investisse sur Neuralink, du coup. Ok, ah, et Clément ouais.
Moi c'est Dora l'exploratrice avec son petit sac à dos et ses multiples façons d'apprendre. Je vois vraiment la formation comme ça, en me disant que aujourd'hui la formation, que ce soit surtout dans les entreprises, je trouve que c'est trop formaté, ça suit un cadre qui en plus fonctionne pas terriblement bien selon moi, c'est mon avis encore une fois, mais je trouve que voilà, c'est le parent pauvre la formation dans les entreprises. Et je pense qu'il faudrait laisser plus de liberté aux salariés, aux gens en général, pour monter en compétences, se créer leur petit sac à dos à eux et pouvoir apprendre de la façon qu'ils veulent, quoi. Voilà.
Félicitations pour ces métaphores, messieurs.
On a bossé, hein, on a bossé.
Bravo, bravo, très bien. Tu voulais dire quelque chose, Olivier ?
Ouais, Dora l'exploratrice, il n'était pas né, je pense. Je ne sais même pas s'il en a vu un.
Si, j'en ai déjà vu quand même.
Ah, très bien.
Est-ce qu'il y a un outil que vous aimeriez partager aujourd'hui, un outil digital ?
Bah là, on n'a pas trouvé de consensus, parce que avec Rendez-vous en Terre Digitale, on décortique toutes les semaines pas mal d'outils. On reste finalement à l'affût de tout ce qui sort un petit peu. Et puis, nous, ce qui nous plaît, finalement, c'est pas tant de réfléchir outils, mais c'est plutôt de réfléchir aux usages et de se dire qu'en fait, les usages avant les outils, quoi. Donc, des outils, on en a plein dans notre sac à dos de Dora l'exploratrice ou de jeunes et vieux singes de la jungle de Rendez-vous en Terre Digitale. Mais en fait, l'outil, c'est qu'un outil, quoi.
Alors, je vais quand même reformuler, parce que la réponse me va pas trop. C'est quoi votre outil coup de cœur du moment ? Alors, sur quoi vous passez un petit peu plus de temps dernièrement ?
Je sais pas, j'en ai plein. Un que j'utilise beaucoup en ce moment, vraiment sans mentir, c'est ChatGPT. Je l'utilise tout le temps quasi. Voilà.
Moi, il y a un outil que j'ai beaucoup utilisé dernièrement, c'est Auphonic. C'est un outil qui permet de traiter les sons. Et comme on est en train de créer une formation sur les podcasts avec Olivier, ça me permet de traiter très rapidement des podcasts multitrack, de retirer les bruits, de gérer voilà tout ça. Enfin, voilà, de vraiment gérer le son de manière simple et efficace.
Et mon outil préféré en formation, je pense que c'est quand même Padlet. Voilà. Avec plein d'usages différents. Voilà, je crois que c'est mon préféré.
Tu peux même maintenant générer des images par IA dans Padlet.
Ah bon ?
Le saviez-tu ?
Non, je ne le saviez pas.
Est-ce que il y a un média ou une personne que vous suivez particulièrement dans l'univers de la formation?
Ah, vas-y, non, je ne te marche pas sur les pieds, honneur aux vieux.
Ok, d'accord. Ouais, moi, c'est Suzanne Bossan qui travaille beaucoup dans la gamification, que moi, j'adore, parce que j'adore les jeux, et je trouve ce qu'elle a réussi à faire, c'est lier sa passion avec la formation, et je trouve ça génial. En plus, c'est quelqu'un qui a un peps incroyable. Voilà, et que je vais voir.
Elle est passée dans le podcast, et c'est un épisode pas mal écouté. Donc,
ça m'étonne pas.
Donc, allez l'écouter, c'est chouette.
Ah ouais, et je vais la voir dans 15 jours au Festival des Jeux de Cannes, au festival annuel, voilà, parce qu'elle a un stand là-bas et on va aller se revoir là-bas.
Super.
Et moi, une personne que je suis pas mal en ce moment, alors dans l'univers de la formation, à moitié, on va dire, mais dans l'univers de la tech et de l'intelligence artificielle, c'est Flavien Chervé. J'ai beaucoup regardé ce qu'il avait écrit, j'ai beaucoup regardé aussi ses rediffusions sur YouTube de différentes masterclass, etc., sur le prompt engineering, sur la vulgarisation de l'intelligence artificielle, et c'est vraiment quelqu'un que j'ai trouvé assez inspirant, parce qu'il a une façon de communiquer que je trouve excellente. Il est, je trouve, également très bon dans tout ce qui est vulgarisation et démystification, et ça m'a permis, moi en tout cas, me dire, je peux essayer de comprendre en fait l'intelligence artificielle avec justement des gens comme ça qui me permettent de remettre un peu tout en place dans mon cerveau et de mieux comprendre ces technos, quoi. Donc Flavien Chervé qui sort un bouquin d'ailleurs dans pas longtemps sur le prompt engineering.
Super. Est-ce que, en parlant de livres, est-ce que vous avez un livre sur votre table de chevet?
Clément, à toi. C'est toi le lecteur.
Ouais, moi j'ai un... ouais, oui, c'est vrai que je suis un grand lecteur. Si j'en ai un en ce moment. J'ai le livre de Luc Julia, L'intelligence artificielle n'existe pas. Et avec un message que moi je trouve ultra intéressant. Bon, en gros, il a une façon de communiquer qui est très intéressante. Vous irez voir sur YouTube, il y a notamment une de ses conférences qui est passionnante.
Toujours en t-shirt hawaïen.
Toujours en t-shirt. Bon, c'est un mec qui bosse dans l'intelligence artificielle depuis 30 ou 40 ans, qui a cofondé Siri, qui a bossé dans la Silicon Valley, là qui est de retour, je crois, dans le groupe Renault pour travailler sur l'intelligence artificielle du groupe, mais qui est passionnant. Il y a une conférence sur Internet, on pourra vous mettre le lien si vous voulez, je vous l'enverrai, qui est ultra intéressante, mais il a une façon de communiquer très cynique, un peu provocante, quoi, je dirais. Mais dans son livre, en gros, il remet un peu l'église au centre du village, quoi. Il explique que globalement, l'intelligence artificielle, ce n'est rien de plus qu'une collection d'algorithmes et de technologies qui sont capables de créer des données à grande échelle, mais qui ne comprennent pas vraiment, quoi. Et dans sa conférence, justement, il prend l'exemple, c'est assez intéressant, des premiers outils d'intelligence artificielle qui étaient là pour distinguer des chats. Donc, ils ont été entraînés sur des millions et des millions de photos de chats, et à la fin, ils sont capables à 98% de reconnaître un chat. Et donc, lui, il explique que sa fille de 2 ans, qui a vu 2 chats, elle est capable de reconnaître à 100% un chat, même dans la pénombre, ce qui n'est pas possible pour les outils d'intelligence artificielle qui n'ont pas été entraînés à ça. Donc, je vous conseille ce livre et je vous conseille la conf, on vous mettra le lien si vous voulez.
Et moi, pour être honnête avec toi, sur ma table de chevet, il n'y a pas de livre, mais j'ai des jeux de société. Et en ce moment, j'en ai deux. Un que... Je vais vraiment être honnête, hein, je partage ma vie privée.
Vas-y, c'est
d'accord. Donc, il y en a un que j'ai travaillé pour une formation, d'accord, qui s'appelle Soundmaker. C'est un petit jeu où tu as 400 images différentes et que tu peux vraiment utiliser en formation, un petit peu comme, tu sais, du photolangage ou des choses comme ça. Et donc, c'est vraiment bien. Et je l'ai travaillé la nuit dans mon lit, pour être honnête. Et le deuxième, qui est un de mes jeux préférés en ce moment, c'est Kawale, de Didier Lenin Bragard, Kawale Mini, qui vient de sortir et que je viens d'acheter et que j'adore. C'est un des jeux en bois, c'est un jeu magnifique que j'adore. Voilà. Et j'ai pas de livre, excuse-moi, Elliot.
Mais pas besoin de t'excuser, c'est super. Je vais changer la question. Maintenant, ce sera les jeux de société que je poserai la prochaine fois.
Ce serait drôle.
Bon, on risque de vite tourner en boucle. Je crois que la plupart des gens ont les mêmes jeux de société. On a tous le Scrabble, on a tous
malheureusement
sur autre chose. Non, je crois que c'est un peu le problème. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'on peut vous trouver, messieurs, plutôt digitalement, j'imagine?
Sur Rendez-vous en Terre Digitale, moi, c'est ce que je dirais en premier, c'est-à-dire vous tapez rendez-vous-en-terre-digitale.com et paf, vous verrez les deux singes, et à partir de là, vous aurez le compte LinkedIn et tout ce que vous voulez. Vous pouvez même m'entendre, puisqu'on fait des podcasts, nous aussi. Voilà, donc moi, c'est là, et puis LinkedIn, c'est là où vous me trouvez principalement.
Pareil pour moi, Rendez-vous en Terre Digitale sur LinkedIn et sur le site de pause.fr où je décris un petit peu mon activité et les différentes missions que je peux faire au quotidien.
Alors comment on écrit pause, au cas où?
Ouais, comme une pause mais avec deux U, PAUUSE.
Voilà, je pense qu'on fait bien de le dire pour ceux qui aillent sur pause.com sans les deux U, c'est un petit peu différent.
Ouais, j'ai pas acheté le domaine, hein, beaucoup trop cher, donc j'ai mis deux U, c'était moins cher.
tu as bien fait. Écoutez, messieurs, merci beaucoup d'être passés dans le podcast. Est-ce que vous avez un dernier mot pour clôturer l'épisode ?
Ouais, merci beaucoup à toi. Ça, ce serait vraiment l'autre mot. Et ça te dirait pas, je veux dire, passer un peu dans notre jungle, un de ces quatre ?
Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Avec plaisir.
Bah nous aussi, ça nous ferait très plaisir et on te remercie beaucoup de nous avoir invités parce que c'est super aussi de découvrir comment tu fais. C'était génial en fait. Et c'est important, je trouve, quand on fait des podcasts, tu fais des podcasts nous aussi, et c'est de voir la façon dont tu le fais, ton dynamisme, ta façon d'accueillir les gens, ta façon de poser les questions, de rassurer, etc. C'était très très chouette. Moi j'ai adoré.
Alors, je suis à 3% du dynamisme d'Olivier, je crois quand même, mais faut que j'apprenne. On va monter en gamme la prochaine fois.
Viens dans la jungle, on va te montrer comment il marche, Olivier, tu vas voir. Non, bah pareil, mot de la fin, merci de nous avoir invités, c'était super intéressant, et puis ça permet aussi de prendre un petit peu de recul sur ce qu'on fait d'habitude avec les outils digitaux et de parler au sens un peu plus large sur le monde de la formation, donc trop cool, et puis c'est un podcast que moi j'écoute, ça va être sympa de m'écouter en cours.
Clément, Olivier, merci encore, je vous souhaite de très belles formations, et puis à la prochaine.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté Formation Innovation. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode. Si c'est le cas, le meilleur moyen de soutenir le podcast est de laisser une note sur Apple Podcast. Afin de retrouver les sujets évoqués pendant cet échange et de ne rater aucun épisode, rendez-vous sur formation-innovation.com. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et bonne formation.